premier verset. Matthieu 15, 1 à 20. On va considérer Jésus qui dénonce ici. Vous savez, Jésus a dénoncé pas mal, une bonne partie du ministère de Jésus avait affaire avec la dénonciation. On parlait de ténèbres ce matin. Jésus a dénoncé, il a condamné les œuvres infructueuses des ténèbres. Toujours dans l'amour, mais dans la vérité. Et c'est à noter qu'il faisait ça la majorité du temps avec le leadership spirituel et social d'Israël. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin. Et donc, on voit un peu ça. On va lire les versets, vous allez voir. Vous savez, quand on lit les évangiles, il faut toujours voir ça comme une continuité, une tension qui se bâtit toujours de plus en plus. Plus on avance dans l'évangile, plus la tension est grande. Parce qu'évidemment, Jésus, plus il s'approchait de la croix, plus la tension, puis plus la tension montait et plus il était seul. Puis à la fin, il était complètement seul, abandonné de tous. C'est ce que la Bible nous dit, hein, dans les prophètes. Donc, on va lire au verset 1 jusqu'au verset 20. « Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, c'est une section un petit peu plus longue, 20 versets, mais ça va tout ensemble, tout par rapport au lavage des mains. Probablement qu'il n'y avait pas les règles sanitaires à l'époque. J'ai comme d'allumer là-dessus, mais quand j'ai Camille, j'ai fait ça avec ses mains, puis... bon, en tout cas, je ne veux pas être politique, mais j'avais même pas pensé à ça, mais bon. En fait, Jésus ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce la folie de la tradition humaine. Et vous allez voir pourquoi. D'abord, là, on doit tous admettre ici que, qu'on l'admette ou non, nous sommes tous sujets à la puissance et l'influence de la tradition humaine, dans l'Église et hors de l'Église. Je veux dire, ça fait partie de la vie humaine. On a des traditions, des habitudes. Par exemple, dans une église, on a ce qu'on appelle une liturgie. Puis là, liturgie, c'est pas juste les catholiques qui ont ça. Liturgie, ça veut, c'est un mot qui veut expliquer la procédure. Comment qu'on marche comme nous, hein? On arrive le matin, on chante deux cantiques. Après ça, je lis un passage de la parole, on prie, on rechante. Ça, c'est la liturgie. C'est la façon qu'on... C'est-tu mauvais? Non. C'est juste la façon qu'on marche. Tu sais, puis est-ce que... Donc, c'est pas nécessairement mauvais en tant que tel. Bon, puis là, certaines églises ont certains traits culturels chrétiens. OK? Les églises font certaines, d'une certaine façon, cette gang-là d'églises de même, d'autres. OK? Il y a des traditions. OK? Et c'est pas nécessairement mauvais parce que c'est une tradition. Le problème, comme Jésus le souligne ici, bien clairement. C'est lorsque la, lorsque la tradition, verset 3, transgresse le commandement de Dieu, ou verset 6, annule la loi, la parole de Dieu. OK? C'est-à-dire, dans ce temps-là, l'homme devient un voleur. Il prend ce qui est de Dieu et il le prend pour lui, pour son domaine, sa propriété. Il se l'approprie pour le dénaturer. OK? Je vais vous donner un exemple. Bon, ici, Jésus en donne un exemple, là, avec le lavage des mains, puis tout ça. Puis, ben, en fait, c'est eux autres qui amènent ça. Puis, Jésus, il part de là avec le lavage des mains, puis là, il prend l'exemple de honore ton père et ta mère, puis avec une offrande qui aurait pu. On n'a pas vraiment ça de nos jours. En fait, moi, j'ai. Ça fait combien de temps que je suis pasteur, en tout cas, mais. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, ah, j'aurais voulu donner mon offrande, mais. Non, excusez, c'est l'inverse. J'aurais voulu aider mes parents, mais je les donnais en offrande. Moi, je ne l'ai jamais entendu dans notre monde moderne. Je ne sais pas si vous autres avez déjà entendu ça, mais bon. Mais pour faire, mettons, peut-être un parallèle plus avec ce qui ressemblerait à quelque chose de semblable dans notre monde moderne, où est-ce qu'on transgresserait le commandement de Dieu au profit de la tradition des hommes? Mettons, quand on se met à traiter des chrétiens, des chrétiennes, des frères et sœurs en Jésus-Christ, on les traite de mauvais chrétiens, de charnels, de compromettants, parce qu'ils n'adoptent pas les mêmes standards musicaux, vestimentaux, culturels, chrétiens que nous autres. OK? Pourquoi? La Bible trace une ligne, la mondanité versus la sainteté. Mais à l'intérieur de ça, il y a des variantes, il y a une marge de manœuvre, il y a une liberté de conscience, OK? C'est-à-dire, pas toutes les églises sont toutes pareilles, puis c'est pas nous autres qui ont toutes nos raisons, puis les autres ont toutes tort, là, comprenez-vous? Mais c'est là que ça serait un peu la même... On annulerait, on transgresserait le commandement de Dieu de s'aimer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres, au profit d'une tradition, de dire, ah ben nous on fait ça de même, puis on est... Comprenez-vous? Ça pourrait être une espèce d'équivalent, pas aussi fort que celui de Jésus, où est-ce que c'est le commandement est beaucoup, c'est par rapport au père et à la mère. Mais bon. Donc, la pensée ici, qu'on va développer pendant le message, c'est le fait de régir nos relations interpersonnelles. C'est toute part de notre relation avec Dieu, mais ça se transmet, ça se transpose dans nos relations interpersonnelles. Est-ce que ce qui régit mes relations avec les autres, c'est la loi et la tradition ou la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'on va, parce que c'est de ça ici que ça parle, puis c'est de ça qu'on va regarder, on va traiter ensemble. Et juste pour dire ici, pour que tout le monde voit que le chapeau peut y faire, je pense qu'ici, même à l'intérieur de l'Église, notre composante de l'Église a un peu changé. Il y a des gens qui viennent de peut-être des différents milieux. Nous, on est un milieu beaucoup plus traditionnaliste et tout ça. Il y a des milieux plus contemporains, ou, OK? Nous, plus légalistes ou plus laxistes, OK? On se comprend, là? Bon. Ben, c'est pas comme s'il y a un milieu qui n'a pas de tradition puis l'autre, ils n'ont pas. Il y en a qui ont juste des traditions plus anciennes, l'autre, c'est des traditions nouvelles. Mais c'est, je veux dire, il peut avoir le même piège. Ah, nous, dans notre église, on est moderne, on fait pas les vieilles traditions. Ouais, mais t'en fais des nouvelles. Puis tu peux autant mettre ça entre toi puis Dieu. Tu comprends? C'est pas l'idée de nouveau. C'est l'idée, est-ce que ça vient entre ma relation avec Dieu puis avec mes frères et sœurs? Est-ce que cette tradition-là transgresse, annule le commandement de Dieu? OK? Donc, faut pas juste simplifier et dire, ah, ben eux autres, vu qu'ils sont traditionnalistes, eux autres, c'est sûr qu'ils sont pas corrects. Non, parce qu'une église toute moderne, puis parce qu'ils ont tous leurs codes de conduite, tu t'habilles pas de même dans une église. Non, t'es pas supposé de faire ça. Mais c'est quoi? C'est une nouvelle tradition. Puis tu sais, nous, on a celle-là, la vieille. Mais c'est deux traditions, là. Comprenez-vous? Tu sais? D'ailleurs, j'ai chaud. L'idée ici que Jésus dénonce la folie de la tradition humaine, je veux juste dire une dernière note là-dessus en introduction, c'est que c'est de la rébellion. C'est pas neutre. Nous, on dit, ah, c'est juste une tradition, c'est chacun. Mais quand on place au-dessus de la parole de Dieu, de la relation avec Dieu, avec notre frère et soeur, des traditions, des choses qu'on fait, et que c'est au détriment de ces relations-là, c'est rebelle au plan de Dieu. C'est pas neutre, puis juste, c'est pas grave. Non, ça a des effets. Ça produit du mauvais fruit. OK? Même si on fait ça sous le couvert d'honorer Dieu, par exemple, je disais tantôt, si dans mon attitude, dans mon cœur, j'ai du mépris envers mon frère, ma soeur en Jésus-Christ, à cause de choses extérieures de même, c'est pas neutre, ça. Ça déplaît à Dieu. On a vu un matin, hein, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc, on ne parle pas ici de choses qui sont sans conséquences. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit avec le texte qu'on a lu, qu'on va décortiquer ensemble, c'est trois négligences. Parce que la tradition humaine néglige des choses, donc trois négligences de la folie de la tradition humaine. D'abord, la tradition humaine néglige la grâce infinie de Dieu. Dans ce que Jésus dit ici par les pharisiens, avec leur tradition de se laver les mains, puis là, il donne l'exemple des gens qu'on devrait honorer comme ça, puis au nom d'une tradition, ils n'honorent pas leur père et leur mère. Ici, on voit que, je l'ai dit en intro, le problème, ce n'est pas la tradition en tant que telle, mais le problème réside dans le fait qu'elle supplante ou qu'elle remplace le commandement de Dieu. Le problème avec ça, c'est que Dieu nous a créés avec une nature programmée. Okay? On est créé par Dieu pour l'infini, la transcendance, pour plus grand que nous autres. Savez-vous que les humains, c'est pour ça que les gens, ils font tout ce qu'ils font. On dit, ah, le monde est donc bien fou, ils prennent de la drogue, ils se tirent en bas d'un parachute. Non, en bas de l'avion en parachute. Parce que se tirer en bas d'un parachute, c'est pas très haut. Ça dérange pas bien. T'sais, tu vois, c'est ton parachute, puis tu sautes en bas du parachute, tu sautes de ça d'eau. T'sais. Mais sauter en bas de l'avion avec un parachute ou pas de parachute, ça, c'est peut-être plus difficile. Okay? Donc, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour le surnaturel, pour quelque chose de plus grand que nous. On a quelque chose, Dieu dit, on a dans notre cœur la pensée de l'éternité. OK? Et donc, Dieu nous a créés pour ça. Et voici ce que l'homme fait dans sa finitude. Il va se contenter, il va limiter à des choses extérieures, limiter avec la tradition. Ce pourquoi, tu sais, on fait de ça la raison de vivre, la raison. Au lieu de ce pourquoi on est créé pour connaître le Dieu infini, de sa grâce infinie, mais avec la tradition humaine qui la remplace, on limite le dessein divin original. On passe à côté de son plan original. C'est-à-dire, lorsque notre objectif, notre but, c'est des choses purement extérieures, on limite ce dessein-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, notre Rédempteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous change à l'intérieur. C'est là qu'on trouve l'émancipation. Autrement dit, soit qu'on se limite nous-mêmes ou on laisse Dieu briser ces limites-là. La liberté qu'on a en Jésus-Christ, je veux dire, c'est pas limité par la tradition humaine, tout ça. En Jésus-Christ, on est émancipé de ces choses-là humaines, externalistes, simplement. La différence, c'est le but. Si mon but, c'est ce qui est extérieur, c'est ce que je vois, je vais devenir esclave de ça. Rappelez-vous, je n'avais déjà parlé. Ah, toi, tu fais ça, t'es bon, t'es dans ma gang, puis là, ça va régir mes relations. Puis moi, ah, là, j'ai pas fait ça, Dieu m'aime pas, ou je suis pas à hauteur, je vais me cacher parce que les autres voient que j'ai pas fait ça, puis ça. Là, je deviens esclave de toutes sortes d'affaires, puis je m'émancipe pas, je me mets dans une cage. C'est là que la tradition remplace, tandis que Dieu, par sa grâce, Dieu nous donnait sa loi, qui est bonne, mais Dieu nous donnait des Christ qui accomplit la loi en nous. Puis c'est ça la liberté. Lorsque Christ en moi, l'espérance de la gloire, lorsque la vie de Christ s'exprime à travers moi, the sky's the limit, je suis émancipé, j'ai cette liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque je vis par l'Esprit, lorsque je marche par l'Esprit, là j'ai vraiment la liberté. J'ai pas besoin de mettre des limites humaines externalistes. J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me guide dans ces voies-là. C'est pas que je vais me débarrasser de la loi, je vais marcher. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais c'est intérieur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est dans la liberté. Comprenez-vous la différence entre les deux? Il y en a un, c'est la grâce de Dieu, puis c'est infini ce que Dieu peut faire. Puis l'autre, ben c'est juste humain. Puis c'est dans une petite cage, puis c'est des petites cases qu'on coche. Puis toi, t'es bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es dans ma gang, toi, t'es pas dans ma gang. Dieu est même ce jour-là, Dieu n'est même pas cette autre journée-là. Comprenez-vous? C'est vraiment deux mondes différents. Donc la tradition humaine a ce danger-là qu'il peut avoir parce que ça néglige la grâce infinie de Dieu. On est créé pour bien plus grand que les simples traditions. On est créé pour notre Créateur. Et en passant, je dis que la tradition n'est pas nécessairement mauvaise et tout ça. Le danger, là où est-ce que ça devient une folie, c'est quand ces choses-là m'empêchent de trouver mon refuge, mon contentement, ma vie, ma joie dans le Seigneur. Et c'est ça le danger de la tradition. Je peux essayer de trouver toutes ces choses-là en dehors. OK? Donc, la tradition, je vais prendre un mot aussi qu'on utilise souvent. La tradition nous confine. Le confinement, c'est vrai. Tandis que la grâce de Dieu nous émancipe, nous libère. C'est la fin des mesures de confinement. Maintenant, le dessein de Dieu, avec ceux qui s'étaient fait confier la parole ici, là, on a les scribes et les pharisiens. Les pharisiens et les scribes. Je ne sais pas s'il y a une différence avec l'ordre entre les deux, mais les pharisiens et les scribes, ils s'étaient fait confier la parole de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est qu'ils communiquent. Eux autres, là, ces gens-là, là, étaient supposés de communiquer, même là, si c'était... Attends, eux autres, ça, on peut dire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est la transition vers le Nouveau, là, parce que les évangiles, OK? Ils étaient supposés de communiquer la grâce infinie de Dieu, même avec toute la gloire. Dieu, la grâce de Dieu n'est pas juste dans le Nouveau Testament, là. La grâce de Dieu est dans toute la Bible. Dieu a toujours été un Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce. Ben, eux autres, qui s'étaient fait confier la parole, ils devaient communiquer cette grâce, ce salut, cette délivrance spirituelle, non seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les autres nations. Vous allez voir l'Ancien Testament, c'était ça le but. Puis les leaders spirituels, c'était ça le but. Puis pourquoi que les prophètes reprenaient tout le temps les leaders spirituels? C'est parce qu'ils passaient à côté de ça, puis c'était pas nouveau du temps de Jésus. En fait, c'était même avant, pendant, puis même après la venue de Jésus. Ils ont passé à côté du dessein original de Dieu avec eux autres. Dieu leur avait confié les Écritures pour qu'ils trouvent Christ en elles. C'est ça qu'elle dit. Vous cherchez des Écritures, il parle de moi. Puis il l'avait là devant sa face, puis il l'avait manqué. Devant leur face, puis il l'avait manqué. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qu'on vit en ce moment. Où est-ce que, par tradition humaine, je pense trop d'Églises ont décidé de rester fermé physiquement et spirituellement. Et j'explique. Qu'est-ce qui explique? Où est-ce qu'on voit les exemples dans la parole de Dieu? Où est-ce que... En passant à l'oppression historiquement, puis dans la Bible, l'oppression a toujours été là. On lit la Bible, c'est un livre d'oppression. Le peuple d'Israël est sous l'esclavage, après ça, il y a des ennemis par-ci, des ennemis par-là. C'est plein d'oppression dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Le peuple de Dieu qui crie à l'Éternel, puis qui les délivre. C'est pas mal ça le pattern, n'est-ce pas? Maintenant, c'est là qu'ils ont trouvé la grâce de Dieu, c'est là qu'ils ont trouvé la délivrance, c'est là qu'ils ont trouvé la liberté. Lorsque le peuple de Dieu se tournait vers Dieu, puis quand ça allait pas, c'est quand justement ils écoutaient pas, puis là, ça allait de mal en pire. Puis on a des histoires héroïques comme ça, Shadrach, Meshach, puis Abednego, puis Daniel, puis... On voit, waouh, ils ont vécu cette délivrance, cette liberté, OK, de s'être confié en Dieu. Pourquoi on ne vit pas cette émancipation? Mais je pense parce que, par tradition humaine, les chrétiens, il faut qu'on obéisse au gouvernement, puis c'est le même. On ne se pose pas plus de questions. Je pense qu'il y a quelque chose de problématique avec ça. On est tous, savez quoi, si on prendrait tous les chrétiens du Québec, on s'assoit dans une grande salle, on dirait, qui est-ce qui pense qu'on doit obéir au gouvernement selon Romains 13, puis 1, Pierre 2, tout le monde dirait oui. C'est dans la Bible. Si on était un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais si on dit, OK, à partir de quand qu'on désobéit, là, on ne serait pas sorti d'ici là. Parce que je pense qu'aussi, on pourrait te dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais à partir de quand? Puis, moi, je pense que c'est là. Je pense qu'on a vu, tu sais, c'est le thème de l'année, Dieu révèle les choses. Ce mois-ci, Dieu révèle ce qui est dans l'Internet. Je pense que Dieu a révélé beaucoup cette année la puissance de la tradition chrétienne. Alors, tout le monde fait ça, on fait ça de même, on ne se pose pas plus de questions. Est-ce que ça se peut que Dieu, le Saint-Esprit, si on l'écoute, il nous pousse à y faire confiance, puis malgré qu'on a peur, qu'on va quand même avancer puis faire confiance que Dieu va s'occuper de nous autres? je suis pas mal. J'ai eu beaucoup de surprises là-dedans. Une des premières, j'ai commencé juste à partager quelque chose au tout début, là, je pense que c'était au mois d'avril. La première fois que j'ai partagé, pouf, j'ai plein un ressac, là, bang, ça me retombe dans la face. Hey, là, t'es ici, pis t'es ça. Oups. Je me suis rendu, ah, mais tiens, fais pas l'unanimité. Tu sais, comme quelqu'un qui vient d'être sauvé, pis là, il partage, hey, Jésus, il sauve. Pis là, tu penses que tout le monde va être sauvé, c'est tellement simple, c'est tellement beau. Pis là, les gens, ils te lancent des insultes. Oh, ton Dieu, toi, t'es bien fermé. Mais non. Tu sais. Mais ça a fait ça un peu. Ben, j'ai eu ça en différentes étapes, sous différents formats. Puis je dirais celle-là, puis beaucoup avec le leadership des églises. Où est-ce qu'on peut raisonner, ben, puis l'idée, c'est, ou j'ai pas le mot tradition, on pourrait dire pragmatisme. Ben, on fait ça demain, ça marche. C'est quoi? C'est de la tradition. C'est se confier, ça vient entre nous puis Dieu. Moi, je pense que là, où Dieu opère des délivrances, on a parlé de la Californie de l'été passé, là, on parle de l'Alberta, ce que nous, on a pu vivre ici par la grâce de Dieu, je pense que c'est simplement ce fait-là que, lorsqu'on trouve le Dieu de grâce, justement, regarde, on peut en liberté, Dieu va travailler comme lui travaille. Amen. C'est ça, l'idée. Puis encore là, qu'on se pense pas meilleur que personne. Moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que pour nous, c'était plus facile que bien d'autres églises de faire ce qu'on a fait. Il y a des églises que je connais sont entourées de maisons. Puis il y a des églises là qu'avant que c'était permis, pendant que c'était permis, ils ont eu la visite d'église parce qu'il y a des gens qui regardent, puis oh, d'autres doivent être plus que 25, puis tout ça. Tu sais que c'est pas évident. L'église de la Vieille Capitale sont entourées de maisons. L'église des frères à côté de chez ma mère, c'est des blocs appartements. Tu sais, il peut y avoir peut-être à peu près 100 paires de yeux qui sont en train de regarder un beau dimanche matin. Je dis pas qu'ils sont tous dans leur fenêtre à regarder de même, là, mais tu sais. Donc, c'est ça. Nous autres, c'est parce que Dieu a permis ça de même. Mais je veux juste amener ça comme illustration, comme application pour dire faut pas qu'on laisse nos raisonnements, la logique humaine, les choses qui font du bon sens venir limiter la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Donne un autre exemple. Des fois, on vit des situations difficiles, n'est-ce pas? Situation de couple, situation de famille. Situation d'église. Des fois, il y a des nœuds dans les relations. Des fois, c'est au travail. Quelqu'un qui donne de la misère. Puis on pourrait tout ici, si on s'assoyait, puis il y en a des situations. C'est pas évident. OK? Dans des situations comme ça, il y a de la tradition humaine. Vous avez vu ça? Dans le langage chrétien, on appelle ça du counseling. Est-ce que je suis en train de rejeter du revers de la main tout le counseling? Non. Parce que counseling, ça veut dire donner des conseils. Ça veut dire donner des conseils. Le problème avec le counseling, c'est quand ça remplace, il dit oh, mais toi, tu as ce problème-là, si tu fais l'étape 1, 2, 3, ça va bien aller, tu vas voir. Le problème avec ça, c'est que je ne dis pas cours à Jésus-Christ. Accroche-toi à ce que tu connais de Jésus-Christ. Parce que si je donne tous les conseils et qu'il ne va pas courir à Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il y a, c'est des conseils. Mais il n'y a pas celui qui est le conseiller. Hein, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Pas tant de conseils qu'on a besoin, c'est du conseil. Voyez-vous, on peut comme ça, au profit d'une tradition, hein, parce que les chrétiens, on a des milieux, tu sais, on a du counseling, puis tout ça, puis je peux penser à côté de celui qui fait la différence, comprenez-vous? Et donc, c'est quoi que je suis en train de faire? Je suis en train de me priver de la grâce de Dieu. C'est la première chose que la tradition néglige, la grâce infinie de Dieu. La deuxième chose qu'elle néglige, c'est l'éternel. Les choses éternelles au profit du temporel. Regardez versets 12 à 14. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » La culture et les circonstances sont continuellement en changement. Voilà pourquoi la tradition des hommes ne pourra jamais accoter la parole éternelle de Dieu. La culture, la sagesse du moment, c'est temporaire. C'est pour un temps. Mais la parole de Dieu était bonne dans le temps d'Abraham, dans le temps du retour de Babylone, dans le temps de Jésus-Christ, il y a 1000 ans. Puis si on t'offre encore là, dans 1000 ans, je pense pas, là. mais ce que je veux dire avec ça, c'est que La parole nous ramène à ce qui est vraiment important, parce que le temporaire, ça passe. C'est là ici, Jésus emploie l'image d'une plante. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste, selon ce que moi je comprends de ce passage-là, je pense que ça ne réfère pas nécessairement à une personne, mais à un système. Système de croyance. Les pharisiens et tout ça avaient un système de croyance, c'est ça, qui avait établi un système de tradition, qui avait planté, mais qui n'avait pas été planté par le Père Céleste. C'est un système externaliste, superficiel. Et c'est pour ça qu'il était condamné à l'extermination. Je veux dire, ça ne pouvait pas durer. Pourquoi? Parce qu'il était de nature, il n'était pas éternel, il était simplement temporaire. Et cet externalisme-là, c'est un aveuglement spirituel et ça l'amène à la destruction. C'est ce que Jésus dit au verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans une fosse. Donc, c'est ça le résultat de se confier dans ce qui est temporaire, dans ce qui est changeant, dans ce qui est extérieur versus ce qui est éternel. Et pourquoi? Parce que le fondement, c'est le sable de la sagesse humaine. Comme Jésus a dit, quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Et se sont jetés sur cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont bâti cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Donc, c'est ça que ça donne. Bâtir sur le fondement temporaire, le sable mouvant de la tradition humaine versus le roc éternel de la parole de Dieu. Il y en a un qui dure, l'autre qui est voué à se détruire. Et ce qu'on plante dans nos vies, là où on met notre confiance, la graine de notre foi qu'on plante, doit être plantée dans le sol éternel de la parole de Dieu. Sans quoi, ça ne peut pas porter du bon fruit, ça ne peut pas durer. Et vraiment ici, l'important, c'est distinguer entre ce qui est temporaire versus ce qui est éternel. Entre ce qui est une œuvre temporaire ou morte versus du fruit éternel. Et l'un qui produit la mort, la destruction, l'autre produit la vie, l'édification. Et là, je vais amener un exemple qui peut-être... C'est toujours délicat, mais... On pense... Juste un exemple, aux enfants. Aux enfants dans une église comme la nôtre. On a tous les formats ici d'enfants. OK? Pensez-toi le plus grand enfant si on met ça dans ce sens-là. Avec, je ne veux pas t'insulter, William, mais de 24 à Cédric, 2 semaines. Hein, t'as pas... Puis enfant dans le sens que, tu sais, pas... Je ne prends pas ça personnel. Mais si tu parleras à ma femme, je pense que c'est dans la culture roumaine. Des fois, ils disent les enfants de quelqu'un, 18, 20 ans. Mes enfants, ils disent, mais maman, on dit pas un enfant. Chez nous, c'est un peu comme... Mais je pense que c'est culturel. Les Roumains, c'est ça qu'ils disent. Je sais pas s'ils font ça en Afrique, là. Oui, hein? Même un adulte dit, oh, c'est un enfant. Ouais. Ah, ben, je t'insulte pas, finalement. C'est nous autres qui... vous avez vu, c'est culturel. Mais en tout cas... Non, mais je vais amener un point important. On parle de l'éternel versus le temporaire. Écoutez... Est-ce que ça se peut qu'on ait perdu certains de nos enfants? Puis on s'entend, là, tout le monde est décide pour soi-même, tout ça, mais où est-ce qu'on a insisté, où est-ce qu'on a mis de l'importance sur le temporaire, l'extérieur, puis on a insisté là-dessus, puis on a négligé l'éternel et l'intérieur? Tu sais, au bout du compte, si on a forcé un enfant à faire ça, puis ça, puis ça, tout ce qui est bien, mais qu'il avait zéro conviction, on lui a fait faire ce qu'on était supposé. Mais son cœur n'était pas là. Puis ça a donné exactement comme Jésus ici le cite de Ésaïe 29:13. Ça donne des enfants qui honorent le Seigneur de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Puis on s'entend, là, c'est pas une excuse parce que chacun est responsable pour soi-même. Il y a des enfants qui ont des mauvais parents, même pas chrétiens ou des fois négligents. Puis ils sont donnés au Seigneur au complet. Puis il y en a que c'est l'inverse, qui ont des très bons parents qui les aiment, tout ça. Puis donc, tu sais. Je ne suis pas en train de déresponsabiliser ni les parents, ni les enfants, mais je veux amener l'illustration pour dire c'est quoi mon objectif, sur quoi est-ce que je porte mon attention, sur ce qui est temporaire et extérieur ou c'est ce qui est intérieur et éternel. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Ça mène à la troisième négligence de la tradition humaine. Elle néglige l'importance de nos relations avec Dieu puis avec les uns les autres. Versets 15 à 20. On peut lire, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. La tradition néglige l'importance des relations. Et je pense que c'est ce qui est le plus grave avec la folie de la tradition humaine, c'est quand elle oublie ou elle néglige la relation d'abord avec Dieu. Ce Dieu qui connaît, il connaît de quoi on est fait. Il nous connaît, connaît nos circonstances. Dieu est personnel. Et quand on néglige lui qui est personnel, qui est prêt, qui est disposé à nous rencontrer, comme je disais, quand on a des problèmes, c'est pas parce que Dieu a une petite formule puis qu'il veut la régler, c'est parce qu'il c'est un rendez-vous. Dieu veut qu'on le rencontre là. C'est pas comme, tu sais, ah tiens, je te donne une formule puis tu peux aller chez vous. Non, Dieu il dit, hey, j'ai besoin de ton attention, ton cœur s'est refroidi par rapport à moi, puis dans ma bonté, je t'envoie quelque chose qui attire l'attention vers moi. Comprenez-vous? Dieu, c'est pas comme une banque à piton. Ah, Dieu, j'ai un problème, je vais faire 8, 7, 4, verset 8, 4, puis là, tiens, j'ai la solution, puis je peux m'en aller chez nous. Non, Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Puis quand ça va pas, c'est un appel de Dieu à lui-même. Puis aussi avec les autres. Quand Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous m'appartenez à l'amour que vous avez les uns pour les autres, c'est pas facile de s'aimer comme humain. Entre les uns et les autres. On n'est pas tout le temps bien aimable. Mais justement, lorsqu'on rencontre Dieu dans les conflits interrelationnels, on se rencontre aussi d'une façon unique et spéciale les uns les autres. Il y a un rapprochement, il y a un amour, il y a quelque chose que juste Dieu peut faire dans les couples, dans les familles, dans une église comme la nôtre. Et Dieu, c'est comme ça qu'il est. Et il ne veut pas que nos traditions, nos façons de penser, nos choses qu'on fait comme ça, je pourrais dire bêtement, religieusement, mécaniquement, juste pour répéter parce que les autres le font. Dieu ne veut pas que ça détruise les relations. Le problème avec ces choses-là, ces relations, ces traditions, c'est qu'elles deviennent un substitut, un remplacement au fait de rechercher Dieu, le connaître lui, sa pensée, sa volonté, puis ainsi vraiment connecter avec lui, puis aussi avec les autres. On a parlé, je pense, c'est la semaine passée, une grande tentation qu'on a non seulement avec Dieu, mais je dirais encore plus avec les autres, c'est quand on a des problèmes, c'est sortir avant d'avoir rencontré le Seigneur où est-ce qu'il voulait qu'on le rencontre. C'est pour ça que je ne vois jamais, moi j'ai pris dans mon cœur la résolution de jamais conseiller à quelqu'un de divorcer. Des fois c'est très difficile, tu vois, peut-être que je peux conseiller la séparation quand il va avoir du danger. Parce que des fois ça arrive. Puis je suis réaliste, je sais que tu sais, je veux dire, quand il y a une situation où est-ce que les enfants, la femme est en danger, puis tout ça, je veux dire, on doit protéger les personnes. Mais je ne veux pas conseiller, ah ok, si on cherche Dieu, puis on trouve Dieu, on va trouver quelque chose que Dieu a là, que juste lui peut faire. Je parle, puis même chose, il y a des gens qui viennent dans une église, qui restent, puis il y en a d'autres qui partent, puis tout ça. Puis, avec des enfants dans une famille, c'est la même chose. Partir, la fuite, c'est jamais une solution. Puis on sait, c'est un classique, on dit ça, hein, quand on s'en va ailleurs, on traîne nos problèmes avec nous autres. C'est vrai, pourquoi? Parce que t'as pas trouvé le problème, t'as pas trouvé la solution au problème, c'est-à-dire. Si on laisse pas Dieu guérir nos blessures, être encore là, puis ça fait encore mal. Comment je fais pour savoir que Dieu a pas guéri ma blessure? C'est quand quelqu'un en parle, quand ça ressort, ça fait encore mal. Si quelqu'un te parle d'un homme, d'une femme que tu connais, puis que ça vient te chercher quand tu entends son nom, tout ça, c'est parce que tu n'as pas laissé le Seigneur guérir cette affaire-là dans son cœur par rapport à cette personne-là. Puis c'est quoi? C'est Dieu qui fait ça de même, parce que c'est son rendez-vous. Est-ce que ça veut dire que il faut absolument que tu reviennes comme avant puis tout ça? Non, moi je suis de cette conviction que Dieu, quand il restaure, c'est mieux qu'avant. Je vais vous donner un exemple. C'est arrivé, on a eu toutes sortes de situations depuis qu'on a commencé l'église, tout ça. Mais je me rappelle d'une en particulier. Où est-ce que c'était difficile? Tu sais, on est des aides justement personnelles, puis on a des relations. Fait que dans l'église, c'est ça, là, il arrive des situations, ça nous touche, puis on pleure avec les personnes, puis des fois, il y a des familles qui passent à travers des affaires difficiles, puis on les aime, puis on veut les aider, puis tout ça, puis ça nous affecte et tout ça. Puis des fois, ça ne va pas tout le temps comme on voudrait. Ça ne vire pas tout le temps, OK? Puis dans une de ces instances-là, je me rappelle, à un moment donné, bon, ça va. Les choses avaient pris, mettons, un mauvais tournant, puis tout ça, mais ce que je veux dire, pendant un bout de temps de cette relation-là, les choses n'allaient pas bien. Les choses étaient comme rendues à un sommet de « au secours, qu'est-ce qui arrive? » Tu sais. Mais Dieu n'avait pas fini. Dieu n'avait pas dit « encore, mets ça de côté. » Puis, en laissant Dieu travailler, puis Dieu a continué à travailler, puis en embarquant dans ce que Dieu faisait, Dieu a restauré cette situation-là, cette relation-là, puis elle est meilleure qu'elle était avant. Je pense que c'est ça, la restauration divine. C'est pas comme, ah, qu'on s'endure la face, puis on se voit dans l'église, mais on se parle pas. Moi, ça, je pense pas que c'est la relation. Je pense pas que c'est pas la grâce. Ça, n'importe qui peut faire ça. Mais la grâce de Dieu apprend une situation qui va vraiment pas bien, puis elle la rend meilleure. Ça, c'est la signature de Dieu. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se fait en criant lapin? Est-ce que ça se fait en une semaine? Non. Mais Dieu peut le faire, puis il va le faire dans son temps, puis à sa manière. Il faut juste y faire confiance, puis rentrer dans son travail. Là où est-ce qu'il nous montre. Pour nous, ça a été des moments inconfortables. Il a fallu, nous, s'humilier pour montrer des choses que, regarde, c'est pas correct comment qu'on a fait. On avait des bonnes intentions, puis on voulait pas, mais tu sais quoi? On a réagi avec notre chair. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il nous montre de faire un pas, puis après ça, l'autre, puis l'autre. Puis c'est comme ça que Dieu travaille. C'est ce que je veux dire avec ça. Si on compare avec nos idées préconçues, puis tout ça. Mais le Saint-Esprit est relationnel. Si j'ai tellement mes idées toutes faites, puis que c'est comme ça qu'on règle, puis tout ça, puis je laisse pas le Saint-Esprit, je passe à côté de ce qu'il veut faire, puis je le laisse pas aller jusqu'au bout, où est-ce que lui voudrait amener les choses. Et je pense que on doit retenir ici une expression. Jésus a dit, on va en parler dans un autre message plus tard, Dieu voulant, Jésus dit au verset 16, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? » Vous savez, la Bible nous dit que la seule intelligence, c'est de connaître l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il y a une intelligence relationnelle. Tu sais, l'intelligence, c'est pas juste connaître des faits. Il y a une intelligence à savoir comment agir, réagir dans les choses. Puis ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Puis ça vient pas de nous. C'est Dieu qui va nous prendre dans un temps et va nous dire, cette personne-là, c'est pas réglé avec. Cette personne-là, t'as vu, t'as encore des choses, parce que quand t'entends son nom, quand tu pensais, ça fait encore mal, il y a encore des mauvais sentiments qui montent dans ton cœur. Tu m'as pas laissé encore guérir cette plaie-là. T'as mis un plaster, t'as voulu mettre ça, mais c'est pas guéri. Et c'est ce que ça fait, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu guérit. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, c'est là le danger. Il faut laisser Dieu travailler avec sa grâce. Puis ça, c'est dans les relations, notre relation avec lui et avec les autres. Puis là où notre tradition peut rentrer, puis c'est... Non, on fait ça de même, puis on fait ça de même, puis on pense qu'on a tout réglé, mais on a juste trouvé une belle façon sophistiquée de mettre un beau gros plaster sur la situation, puis on appelle ça réglé. Mais c'est pas réglé. Je conclue avec ceci. Versets 19 et 20. On l'a lu, hein, quand j'ai dit, Jésus a dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Pourquoi la tradition est une folie? Parce qu'elle sort du cœur mauvais de l'homme. Qu'est-ce qui peut sortir du bon du cœur de l'homme? Il est tortueux au-dessus de tout. Ça nous souille, ça nous affecte négativement parce que ça sort de notre cœur souillé. Et donc, face à cette dénonciation de Jésus ici, de la folie de la tradition humaine, je pense qu'on doit accepter cette dénonciation et juste reconnaître que le danger, c'est dans l'objectif qu'on se donne. Si mon objectif, c'est la tradition, si mon objectif, c'est des choses extérieures, si mon objectif, c'est ce que je peux voir, des standards ou peu importe, c'est sûr que je vais passer à côté. Mais si mon objectif, c'est Jésus-Christ, si mon objectif, c'est sa vie, sa liberté, sa sagesse, lui, là, je ne vais pas passer à côté. Et c'est ça vraiment qui est le plus grave. C'est que la tradition humaine, c'est pas d'hier. Hein? Jérémie a dit, « Mon peuple a commis un double péché, il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Comment? Avec des traditions humaines. Ils pensaient qu'ils suivaient Dieu, ils l'honoraient de leur lèvre, mais leur cœur était éloigné. Il est en train de se... Puis on peut tomber dans le même piège. On sait tout dire ce qui est chrétien, on sait tout faire ce qui est chrétien, mais notre cœur peut être éloigné de Dieu, puis on se réconforte avec des choses qu'on fait. C'est un faux réconfort, ça ne devrait pas être un réconfort. Rien ne peut substituer la grâce de Dieu puis une relation avec ce Dieu réel et vivant. Donc, mes amis, Dieu nous appelle à bien plus grand, à bien mieux que de simples traditions. Dieu nous appelle à bien plus grand que régir nos relations les uns avec les autres à la lumière de la loi, aussi bonne puisse-t-elle être. Parce que comme je disais, ça ne donne que des tensions. Si je régis ma vie à la lumière de la bonne loi de Dieu, je me sers mal de cette loi. Parce que je ne serai jamais à la hauteur. C'est la façon que je vais être déçu de moi-même, je vais être déçu des autres, je vais être amer envers moi-même, amer avec Dieu, amer envers les autres. Pourquoi? Parce que c'est ça que ça fait la loi. Ça nous montre qu'on a tous... Fall short. Comment ça dit, non? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Que tous, on tombe à court. On n'est pas à la hauteur. C'est ça le but. Donc, je ne veux pas mesurer mes relations de même. Comment je veux mesurer mes relations à la lumière de la grâce de Dieu? De dire, mon frère, ma soeur, ma femme, mes enfants, la grâce de Dieu est plus grande que leurs défauts et que leurs problèmes. Dans ma vie, moi qui connais mon propre cœur, puis je sais qu'il n'est pas bon, puis je sais que je fais les mêmes péchés, puis que je suis têtu, mais c'est pas ça que je veux regarder. Je veux regarder au Dieu qui est plus grand que ça. Au Dieu qui peut prendre des personnes de même, puis faire des choses quand même. À ce Dieu dont la grâce surabonde. C'est ça qui doit être l'objet de mon attention. C'est ça qui doit définir mes relations. Le Dieu de grâce, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Donc, je veux simplement terminer en disant, allons à lui, gardons les yeux sur lui, ce Dieu de toute grâce qui peut faire en nous et à travers nous infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou même qu'on pense. Seigneur, merci pour ta parole qui nous ramène toujours les yeux sur toi. Et oui, sur l'œuvre parfaite de Christ, parce qu'en lui, on a tout pleinement. On n'a pas besoin d'aller puiser dans les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais on a la source d'eau vive. On te remercie pour ça. Seigneur, aide-nous à vivre à la lumière des richesses incompréhensibles que nous avons en Christ. Et que cela définisse toutes nos relations, d'abord avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Et Seigneur, protège-nous de laisser la tradition, aussi bonne soit-elle, aussi légitime soit-elle, venir entre nous et toi, venir entre nous et nos frères et nos sœurs, entre nous et ce monde perdu. Seigneur, toi tu es venu et tu as attiré les gens à toi. Mais ces pharisiens repoussaient. Ils étaient repoussants et ils ont repoussé Jésus, la lumière de la vie. Seigneur, C'est à toi qu'on appartient. C'est en toi qu'on veut vivre, se réfugier. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.